Bon, alors j'interviens au nom de la campagne BDS France. Alors bon, bien sûr, je vais vous parler des exportations, des importations d'armes d'Israël, la politique militaire, les collaborations avec d'autres pays, le danger que représente Israël sur toutes ces questions-là. Mais d'abord, je veux quand même rappeler ce qu'est la campagne BDS. Donc, BDS, c'est boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une campagne qui a été initiée par le peuple palestinien lui-même pour mettre fin à l'impunité d'Israël et pour satisfaire les droits des Palestiniens pour qu'ils puissent se libérer du colonialisme et du régime d'apartheid que leur impose l'État d'Israël. Et les objectifs sont trois: mettre fin à l'occupation, à la colonisation, blocus de Gaza, démanteler le mur, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif, c'est de gagner l'égalité des droits pour les Palestiniens qui vivent en Israël, parce que 20% de la population d'Israël, soit au moins 1,5 million, ce sont des Palestiniens qui sont tout autant Palestiniens que les Palestiniens des territoires occupés ou les réfugiés. Et le troisième objectif, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens et des exilés. Et ces réfugiés, il faut quand même toujours l'avoir en mémoire, représentent la moitié de la population palestinienne. Et le droit au retour, c'est inscrit dans le droit international. C'est la résolution de l'ONU 194. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exorbitant, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, ça, c'est les trois objectifs de la campagne BDS. Et par ailleurs, la philosophie de cette campagne, c'est que c'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas un mouvement qui est porté par les États eux-mêmes, hein, puisque ce mouvement, son objectif, c'est justement de mettre fin au fait que les États n'ont pas sanctionné Israël. Comme les États n'ont pas sanctionné Israël pour ses manquements au droit international, Israël a continué sa politique d'apartheid et de colonisation et toutes les atrocités que vous savez. Et donc, c'est pour ça que c'est aux citoyens eux-mêmes de se mobiliser pour contraindre les États à prendre des sanctions. Et l'état d'esprit donc de la campagne BDS, c'est que c'est un mouvement donc citoyen, non violent et antiraciste. Non violent, c'est une méthode politique. Ça ne veut pas dire que les gens qui soutiennent le peuple palestinien sont contre toute violence du peuple palestinien pour résister à l'occupation israélienne. C'est pas ça la question. La question, c'est que le mouvement BDS lui-même a choisi ce mode d'action non violent, tout comme ont pu l'être d'autres boycotts, aussi parce que Israël, souvent, se trouve démuni face à des comportements non violents. Face à des comportements violents, Israël a une certaine expérience, c'est de se montrer encore plus violent. Mais face à des mouvements de la société civile non violents, bon, Israël est embarrassé. Voilà, c'est aussi ça la force de la non-violence dans cette méthode de lutte qu'est le BDS. Et enfin, la dimension antiraciste, c'est quelque chose d'important à souligner, hein, puisqu'on a affaire à des régimes occidentaux, particulièrement en France, qui veulent essayer de faire croire que BDS, c'est antisémite, que l'antisionisme, c'est antisémite, alors qu'en fait, BDS est foncièrement antiraciste, d'abord contre le racisme israélien, hein, le racisme anti-arabe, anti-musulman. Et aussi, il faut savoir que dans que BDS n'assimile pas le racisme de la politique de l'État israélien aux orientations politiques de l'ensemble des Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui participent au mouvement BDS. Donc cette dimension antiraciste et à souligner aussi. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, BDS fait l'objet de tentatives de répression de la part d'Israël et de pays occidentaux, comme la France, l'Angleterre, le Canada, certains États des États-Unis. Et ces tentatives qui sont très graves, par exemple contre l'un des cofondateurs de BDS, qui est Omar Barghouti, qui maintenant est interdit de voyage à l'étranger, contre qui il y a eu des menaces. Il y a des autorités en Israël qui disent que les responsables de BDS doivent faire l'objet d'assassinats ciblés. Donc voilà, ça en arrive à un niveau inquiétant. Mais il faut savoir aussi que la raison pour laquelle ça en arrive à ce niveau, c'est aussi les succès très importants de BDS, qui, malgré toutes les intimidations, continuent de se développer. Hein. Il y a eu des compagnies qui ont été obligées de se retirer d'Israël, comme Veolia, par exemple. Il y a la compagnie Orange s'est retirée des colonies. Il y a aussi ce qu'on appelle le BDS culturel, hein, qui est extrêmement important parce que Israël se sert des artistes pour se blanchir de ses crimes, pour faire croire que c'est un État ouvert à toutes les dissidences, prêt à accueillir tous les artistes de par le monde et tout ça. Et donc l'image d'Israël dans l'opinion publique internationale s'est considérablement dégradée. Et c'est aussi ça les succès de BDS. Donc j'en arrive maintenant au deuxième volet là, de mon exposé. Comme vous le savez probablement, donc Israël, bien que ce soit un petit État géographiquement, c'est l'un des plus gros exportateurs de matériel militaire et de sécurité, et le premier par habitant. Hein. Et donc, c'est peut-être le sixième exportateur. Parmi les grands exportateurs, il y a les USA, la Russie, la Chine, probablement. La Chine tient ses chiffres secrets, tant en ce qui concerne les importations que les exportations de matériel militaire. Il y a le Royaume-Uni, il y a la France, il y a même l'Allemagne aussi. Mais Israël, donc, se tient dans le peloton de tête, et Israël est aussi un importateur, je reviendrai dessus après. Alors la politique israélienne au service des régimes répressifs a une longue histoire. Israël a livré des armes, entre autres, au régime d'apartheid sud-africain, à l'époque de l'apartheid dans ce pays, aux dictatures militaires d'Amérique du Sud à l'époque où sévissaient ces dictatures. Vous avez pu avoir un aperçu dans le film tout à l'heure. Israël a aussi livré des armes aux auteurs du génocide du Rwanda. Tout ça, c'est documenté dans une brochure qui a été écrite par IJANS. IJANS, c'est International Jewish Anti-Zionist Network, le réseau juif anti-sioniste international, qui a été créé aux États-Unis et qui donc est international, comme le nom l'indique. Alors les ventes d'armes d'Israël aujourd'hui donc sont destinées à un éventail très large de pays, et il y a parfois des pays auxquels on ne s'attend pas forcément en premier lieu. Par exemple, l'Inde est un très grand acheteur d'armes à Israël. Le Brésil, malgré des sanctions que le Brésil a fait contre Israël, le Brésil reste un important importateur d'armes israéliennes. Donc le chiffre des exportations d'armes israéliennes est évalué à environ 5,7 milliards de dollars US en 2015, selon des données officielles. Et il reste un haut niveau. Il faut savoir, malgré tout, que les exportations d'armes de la part des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont baissé considérablement. C'est l'un des résultats de la dégradation de l'image d'Israël, mais en contrepartie, les importations d'armes de la part des pays européens ont monté de façon considérable dans la dernière période, et c'est lié à l'achat de drones, de munitions, etc., lié à la crise des réfugiés et également la politique dite antiterroriste. C'est ce contexte européen qui fait que les importations ont augmenté considérablement. Et maintenant, je vais dire un petit mot aussi des importations d'armes. Là aussi, il y a une longue histoire. Il faut savoir, par exemple, que c'est la France qui a permis l'acquisition de la bombe atomique par Israël dans les années 50. Ça a été tenu secret, tout ça, mais bon, tout le monde le sait. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que l'aide militaire des USA à Israël, c'est de 3 milliards de dollars par an. S'il n'y avait pas cette aide militaire des USA à Israël, jamais de la vie Israël aurait pu continuer sa politique comme aujourd'hui. Ça n'aurait pas été possible. Il y a aussi d'autres pays, dans une moindre mesure, qui vendent des armes à Israël. Il y a la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Dans ces autres pays, je voudrais quand même citer le cas de l'Allemagne, à savoir que Israël profite du passé nazi de l'Allemagne pour acheter à l'Allemagne ou même se faire offrir, avoir à des conditions préférentielles, des sous-marins et aussi des moteurs pour les tanks. Et donc l'Allemagne se prête à la politique sioniste, alors que, bon, un État n'est pas en soi, si un État est moral, il n'est pas obligé d'être sioniste. Même l'Allemagne, le génocide nazi, ça s'est passé il y a 70 ans. L'Allemagne a fait un bilan. C'est un pays avec un régime réactionnaire, bien sûr. Voilà, c'est pas une raison pour avoir cette politique-là avec Israël. Alors, je veux apporter d'autres éclairages. D'abord, pour dire que l'armée... ce que je veux dire là en bilan des importations et des exportations, ce qui est particulièrement dramatique, c'est que toute cette industrie militaire, pour le moment, on peut pas dire que c'est un boulet pour Israël. Au contraire, ça fait vivre ce pays. C'est une activité lucrative. Dans tous les régimes coloniaux, il arrive un moment où la politique d'armement finit par devenir un boulet. Pour le moment, ce stade n'est pas encore atteint par Israël. Et donc voilà, je redonnerai des précisions après. Je veux dire que l'armée est un pilier du régime israélien. C'est une institution sacralisée. Il a été dit d'ailleurs que c'est pas en Israël, c'est pas l'armée qui est au service de l'État, mais c'est l'État qui est au service de l'armée. Le service militaire en Israël, c'est une institution intouchable. Il y a tout un rituel, la préparation des jeunes à l'armée. Après, le service dure 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Il y a des ONG, quand même, reconnaître qu'il y a des ONG, si petites soient-elles, en Israël, qui s'oppose à cette politique. J'ai essayé d'aller un peu plus vite. Oui, donc il y a Breaking the Silence, un mouvement parmi les anciens qui ont servi dans l'armée et qui dénoncent toutes les saloperies qu'ils ont vécues. Et par ailleurs, je veux aussi souligner la propagande des associations juives sionistes pour l'armée israélienne. Il y a des galas de soutien aux associations d'aide aux soldats israéliens. Et dans ces galas organisés en France, l'argent qui est donné souvent est déductible d'impôts. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des représentants de Tzal, l'armée israélienne, qui sont venus prêcher et même recruter à la grande synagogue de Paris. Hein, et bon, et le gouvernement n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il en aurait été si le même phénomène s'était produit dans une mosquée au service d'un régime arabe? Ça aurait été un véritable tollé. Par ailleurs, il y a des citoyens français qui sont partis, qui régulièrement partent combattre, des citoyens franco-israéliens partent combattre dans l'armée israélienne, ont participé au massacre à Gaza et sont revenus tranquillement en France. Voilà. Les jeunes qui sont partis rejoindre Daesh en Syrie, ça tient la une de l'actualité, mais s'agissant de la participation de Français au massacre contre les Palestiniens, non, ça c'est considéré comme naturel. Voilà. L'argument de vente, ça c'est un point essentiel dont vous êtes au courant, l'argument de vente des marchands d'armes et de matériel de répression israélien, ben leur argument, c'est de dire ce matériel, il est performant parce qu'il a été testé en situation réelle contre les Palestiniens. Donc vous pouvez faire confiance. Et voilà, et c'est ça qui fait le succès des armes et du matériel de répression israélien. Alors je veux souligner que les relations militaires et de sécurité avec Israël, c'est pas seulement le commerce d'armes au sens strict, hein, c'est aussi les nombreux accords de coopération militaire et sécuritaire, souvent développés sous prétexte de collaboration antiterroriste, les consultations stratégiques bilatérales, les rencontres entre autorités militaires, les échanges d'expertise technique et de savoir-faire au niveau des différentes armées et des services de police, les échanges entre les services de renseignement, la coopération industrielle avec création d'entreprises franco-israéliennes, les projets communs dans le domaine de la recherche. Hein, par exemple, il y a un projet Horizon 2020 de recherche dans le cadre de la communauté européenne qui était supposé être sanctionné par la communauté européenne, qui a été obligée, avec le développement du mouvement BDS, de déclarer que toute subvention qui profite aux colonies est désormais proscrite. Mais ils ont fait une dérogation pour les crédits de recherche à des fins militaires. Et par exemple, il y a régulièrement des accords de recherche entre le Technion, une école de hautes études en Israël qui a des fins militaires, entre le Technion et l'école polytechnique en France. Voilà, ça c'est un exemple. Bon, je continue, je vais plus vite. Voilà. Je veux terminer pour ouvrir aux mobilisations. Voilà, donc la campagne BDS développe une campagne pour l'embargo militaire contre Israël. C'est un appel de la direction palestinienne de BDS. Il y a eu des fortes mobilisations depuis les derniers massacres à Gaza. Il y a eu des sanctions. Il y a des pays d'Amérique latine qui ont sanctionné Israël. Il y en a même qui ont rompu leurs relations diplomatiques, comme le Venezuela, la Bolivie. Il y a des actions BDS importantes de par le monde contre la principale industrie militaire israélienne qui s'appelle Elbit System. Donc, pendant les massacres à Gaza, il y a eu des mobilisations dans des usines. Et en France, la mobilisation pour l'embargo se développe. Il y a déjà eu des succès, par exemple, en 2012, sous la pression du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, la participation d'entreprises israéliennes au salon aéronautique Aéromat à Toulouse avait été annulée. En France, la BDS France fait campagne, bien sûr, contre la présence d'Israël au salon mondial de l'armement qui a eu lieu et qui ont toujours lieu en France. Et la France abrite 4 salons internationaux de l'armement où chaque fois il y a des stands d'Israël. Ces 4 salons sont Eurosatory qui ouvre ses portes donc la semaine prochaine. C'est consacré à la défense terrestre et aéroterrestre. Millipol, qui est un salon consacré, c'est le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Il y a au Bourget, il y a un salon consacré à l'aviation, dans l'aviation militaire. Et au Bourget, il y a aussi le salon Euronaval, qui est consacré au matériel naval, dans le matériel naval militaire. Alors, BDS France était intervenu, par exemple, l'an dernier, au salon du Bourget, au stand de d'Elbit, et aussi contre Thales, qui est une multinationale française qui collabore avec Elbit. On a, là j'ai bientôt terminé, donc on a mené une mobilisation contre l'achat de drones Watchkeeper, issus d'une technologie israélienne et d'une collaboration entre Thales et Elbit. Et donc on a remporté cette victoire, mais c'est une victoire amère parce que, bien entendu, si on est contre les drones israéliens, on est contre les autres drones aussi, quoi. Mais disons que c'est ça a été réussi en ce sens que c'est une contribution à l'isolement militaire d'Israël. Voilà. Alors actuellement, on a des démarches en direction de la société AXA qui avait des parts dans la société Elbit. Et donc, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et bon, je termine en disant que donc on a prévu des journées d'action pour l'embargo militaire contre Israël. Et il y aura une journée d'action en septembre. Voilà.
Il y a eu un salon de la sécurité en Israël. Est-ce que c'est fait tous les ans aussi? L'année dernière, je sais qu'il y a eu un grand salon en Israël. Est-ce qu'il est annuel ou c'était exceptionnel que ça se fasse là-bas? Non, je ne me rappelle plus c'est quel c'était ce salon.
Je ne sais pas la périodicité. Je sais qu'il y a eu une année où la France n'est pas allée. Mais bon, je ne sais pas répondre à ça.
Je voudrais ajouter que Israël fait beaucoup plus que importer des armes en Amérique latine. Il exporte son savoir-faire en répression et des techniques de torture. Et ça, c'est connu.
Je voulais aussi rappeler que ce soir, il y a la projection du film excellent israélien de l'arbre.
Voilà, donc je serai là pour la projection. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs projections, de rencontrer le réalisateur du film. Et si vous pouvez rester là pour ce film, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un film très percutant, très, très, très éloquent, et ça vaut vraiment la peine de voir ce film.
Par exemple,
la projection avait prévu de la faire à peu près vers 21h, histoire de nous laisser le temps de manger un petit peu et après le débat.
Au Mexique, sur la collaboration policière, par exemple, il y a 3 acteurs en gros principaux, c'est la France, Israël et la Colombie. Et Israël, les formateurs policiers d'Israël, par leur expérience par rapport à la Palestine, sont parmi les principaux formateurs des stratégies policières et de contre-insurrection au Mexique.